France Inter,
RFI, Radio France Internationale,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale, quatrième saison en cet été 2020. Nous allons vous faire voyager avec cette déclinaison de la librairie francophone en explorant les cultures du monde. Aujourd'hui, nous irons en Bretagne pour un entretien exceptionnel avec le prix Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio. Au Canada, avec Carole Laure et son invité pour notre club francophone. À Istanbul, pour un reportage en déambulation dans la ville. Et nous partirons en Chine grâce à l'écrivaine Catherine Cusset. Confidences, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, ce sont les cinq clés de cette émission. Nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs et vous emmener un peu partout dans le monde.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Queyrade.
Et on commence cette émission avec la confidence, la petite histoire intime d'une personnalité jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Philippe Delerme qui se confie au micro de la librairie francophone. C'était sur le plateau de TV5 Monde, après l'enregistrement de la version télé de cette émission. Bonjour Philippe Delerme.
Bonjour.
Une confidence pour la librairie francophone.
Ah, ça va être une confidence vraiment liée à l'écriture, c'est que j'ai hâte que les brocantes du printemps recommencent, parce que c'est vraiment lié à mon écriture. Il faut que, absolument que je retrouve des bobines pour ma machine à écrire, parce que figurez-vous que je ne peux pas écrire sans ma machine à écrire Brother.
Ça ah, vous êtes encore plus. La machine à écrire?
Je suis encore la machine à écrire, et je n'ai presque plus de bobines d'avance, et je compte bien retrouver, parce que voilà, je ne compte pas me mettre au traitement de texte tout de suite.
Ah mais un jour ça va disparaître, vous savez.
Ouais, je sais, mais moi aussi je vais disparaître dans...
Peut-être avant les bobines, c'est ça que vous voulez dire? Bah,
écoutez,
j'espère pas.
Je ne peux pas dire que je l'espère, mais c'est possible.
Bon, il va falloir vous mettre à l'ordinateur quand même.
Oui,
jamais.
Il va falloir, mais peut-être pas, parce que moi j'écris déjà dans des cahiers. Choisis un cahier à chaque fois en fonction du sujet, jamais le même. Et après la machine. Et puis j'aime bien, voilà. Et ça, je pense pas l'avoir déjà dit. Donc,
bon, merci beaucoup Philippe Delerme. Après cette confidence inédite de Philippe Delerme, voici notre séquence nommée « Le voyage immobile » que vous retrouverez tout au long de l'été dans la librairie francophone estivale. Le principe, un lieu choisi par une personnalité, lieu qui lui fait penser à un autre endroit quelque part dans le monde. Bonjour Catherine Cusset.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une auteure française très attendue en librairie quand vous sortez un nouveau livre. Vous avez obtenu en 2008 le prix Goncourt des lycéens pour Un brillant avenir. Et vous avez publié une quinzaine de livres, dont un récit de voyage qui vient de paraître chez Gallimard. On est au cœur de Paris, pas très loin d'un célèbre parc, et devant nous, un lieu très particulier.
Alors vraiment étonnant, on est devant une pagode d'un rouge ocre, très beau. On arrive ici, on a l'impression d'un petit bout de Chine, alors qu'on est à 10 minutes de la place de la Concorde. C'est la pagode de Monsieur Chang Tsai Lu, qui était un marchand d'art asiatique, qui est arrivé en 1922. Et il a créé cette galerie à partir d'un immeuble haussmannien, figurez-vous.
Ah oui, d'accord, oui, c'est pour ça que c'est haut comme ça.
Alors vous voyez, vous prenez un immeuble haussmannien, vous le peignez en rouge,
ouais,
c'est mais un
oui,
rouge, attention au rouge, hein, il faut un rouge un peu ocre,
ouais, un peu terre,
chinois, quoi, comme ça. Ouais. Et puis vous lui mettez à chaque étage des petits toits un peu inclinés, là, qui sont en tuiles. Et puis aux fenêtres, vous mettez, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein,
des frises,
des géométriques en bois extrêmement jolies sur chaque fenêtre. Qu'est-ce qui lui donne encore l'air chinois? C'est surtout ces petits toits. Hein,
ah bah carrément, oui, on a l'impression vraiment d'être en Chine. Là.
Donc on a l'impression d'être en Chine, c'est vraiment stupéfiant à partir d'un immeuble haussmannien en plein Paris.
Alors Catherine Cusset, dans votre nouveau livre, vous racontez trois voyages au Népal, au Costa Rica et en Chine. Et vous vous faites passer pour la touriste de base qui n'est jamais contente et qui cherche un mélange d'aventure et de confort, sauf que souvent c'est l'un ou l'autre.
Je crois qu'il y a trois formes de voyage. Il y a le voyage quête, où on part en général parce qu'on a un questionnement sur soi. Et c'est ce qu'on a fait au Népal, quand on est parti marcher, complètement hors de notre zone de confort. Il faisait un froid glacial et ça a été un voyage absolument magnifique. Et dans mon livre, je raconte ensuite un deuxième voyage qui est un peu le point de départ du livre et qui est un voyage absolument comique dans l'esprit de mon livre « Confession d'une radine ». Alors là, on trouve une autre Catherine, complètement furieuse, en quête d'authenticité, hein, de trouver, de trouver un voyage qui lui convient, un hôtel qui lui convient, un village qui lui convient.
Au Costa Rica.
Au Costa Rica. Et ce voyage est un désastre. Un désastre. On a frisé la catastrophe.
Et après, vous êtes allée en Chine?
Alors, je suis allée en Chine sans ma famille, seule, à l'occasion de la sortie de mon roman, L'autre qu'on adorait en chinois. Alors là, vraiment, cette Chine, je peux vous dire tout de suite que cette Chine que j'ai découverte, elle a littéralement aucun rapport avec la pagode de monsieur Chang Tsai-Lu.
Justement, imaginons, faisons un exercice, Catherine Cusset, à partir de ce lieu-là, donc on a bien compris que vous pensez à la Chine. Imaginez que vous êtes en Chine, là, en ce moment, on se téléporte en Chine. Où allez-vous? Que voyez-vous?
Alors, si je suis à Shanghai, par chance, à Shanghai, j'ai énormément marché dans l'ancienne colonie européenne, française. Et là, Shanghai, c'est une ville à taille humaine. Et c'est une ville magnifique. J'ai eu la chance de pouvoir louer un vélo, et je ne vous dis pas comme c'est une chance, parce que pour pouvoir voyager aujourd'hui en Chine, il faut absolument avoir son téléphone et un compte WeChat. Moi, j'appartiens au XXe siècle, j'ignorais tout ça. J'avais encore du liquide, des moyens en fait, de paiement qui n'existent plus. Et j'ai eu la chance, il doit y avoir un magasin de vélos dans toute la Chine qui loue des vélos en payant, et je suis tombée dessus.
Oui, parce que vous dites que les Chinois n'ont plus d'argent liquide ni de carte bancaire.
Même les mendiants mendient avec leur téléphone, il n'y a plus de liquide.
C'est incroyable.
Tout est dématérialisé. Ensuite, je suis allée à Wuhan. Ça vous dit quelque chose peut-être, Wuhan?
Vaguement, ouais. Ouais. Bon, alors, c'est l'endroit où on n'aimerait pas aller.
Je dois vous avouer que j'ai remarquablement mangé à Wuhan. C'était absolument incroyable. C'est un raffinement. D'ailleurs, la nourriture chinoise m'a vraiment surprise. Elle est extrêmement raffinée. Elle ne ressemble pas à ce qu'on connaît des restaurants chinois en Europe ou aux États-Unis. Mais alors, Wuhan, vraiment, j'étais dans un très bel hôtel, mais qui en gros donnait sur trois autoroutes qui se croisaient. Je peux pas vous dire, pour moi c'est une esthétique, je ne comprends pas. Enfin, il n'y a pas d'esthétique d'ailleurs.
Et alors, on va aller dans un magasin acheter une robe, Catherine Cusset.
Alors, une petite surprise.
Vous racontez
on
ça
va dans
le
magasin
livre.
Acheter une robe.
Et alors, les Chinois sont plutôt directs et frontaux.
Direct. Voilà, on trouve une très jolie robe en soie rouge, on l'essaye, on s'est dit, ah, que je vais être jolie dans cette robe, elle va un peu changer ma garde-robe. Elle n'est pas trop chère pour la Chine, elle est autour d'une centaine d'euros, c'est vraiment très très bon marché en Chine. Et donc la vendeuse ne parle pas un mot de français ni d'anglais, mais je m'aperçois que les manches sont un peu serrées. Et bon, bah, excusez-moi, j'ai un peu de... Voilà, malheureusement, j'aimerais bien que mes bras soient plus minces.
Ça va, Catherine, franchement.
Et donc, je dis à la vendeuse, je suis un peu embarrassée, un peu gênée. Je veux pas qu'elle ait l'impression que j'ai dérangé pour rien. C'est une jeune vendeuse, donc je lui dis en anglais, vous voyez, elle est un peu serrée, j'ai peur qu'elle soit trop petite une fois que je l'aurai lavée. Et donc, tout ça passe par téléphone, traduction interposée. Et donc, elle me tend son téléphone et je vois écrit dessus, en anglais, « Fat, not nice ». Donc je traduis, le gras, la graisse, c'est pas joli.
Voilà.
Donc pour moi, c'est l'image de la Chine.
C'est brutal.
Ce côté complètement direct. D'ailleurs, j'étais morte de rire dans la cabine d'essayage.
Vous l'avez acheté la robe ou pas finalement?
Non, elle m'avait bien déconseillé, la vendeuse. Au moins, vous aurez envie de lire le livre.
Au moins ça.
À défaut de voyager en Chine. En tout cas, je pense que le récit est assez drôle parce que j'ai eu pas mal de déconvenues.
C'est vrai, c'est vrai.
Voyage.
Merci beaucoup, Catherine Cusset.
Merci, Emmanuel.
Trois fois au bout du monde est paru aux éditions Gallimard. À suivre dans la librairie francophone estivale, Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, qui évoque ses vacances en Bretagne. Avant cela, voici Jojoa et Lieutenant Nicholson qui vous proposent leur caipirinha.
Sa caipirinha, pas de soleil. Sa caipirinha. De soleil. Un fait d'hiver. Deux pullovers. Trois c'est l'ivresse. Quatrième verre. Sa caipirinha. Pas de soleil. Sa caipirinha, pas de soleil.
C'était Jojoa et lieutenant Nicholson sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Bonjour Emmanuel.
Bienvenue dans la librairie francophone estivale. Aujourd'hui, c'est la suite d'un entretien entamé à Nice dans la librairie francophone il y a 3 semaines. Vous avez publié 2 contes chez Gallimard, Chansons bretonnes et L'enfant de la guerre. Le second racontait votre enfance à Nice entre 1940 et 1945. Le premier, vos vacances en Bretagne à partir de 1948. Et nous allons parler de ces vacances. Petit rappel, Jean-Marie, en 45, vous partez en Afrique, rejoindre votre père, et en 48, vos parents rentrent en France.
Oui, alors l'idée, c'était trouver un endroit où s'installer. Mes parents avaient visé pendant un certain temps Saint-Malo. Ils avaient envie d'être plutôt du côté de la Bretagne que dans le sud de la France. Mon père n'aimait pas beaucoup le Midi, il trouvait que les gens n'étaient pas très sérieux. Il pensait que pour notre éducation, ce serait mieux d'être en Bretagne. Et nous avons cherché un endroit, mais en réalité, cette recherche s'est transformée en vacances où nous allions régulièrement au même endroit. Cet endroit qui était un petit village de Finistère Sud, ouais. Qui s'appelle Sainte-Marine.
C'est ça.
Et nous avons passé les étés dans un endroit qui s'appelait Sainte-Marine.
Alors, c'est le village de votre enfance, en face de Bénodet, séparé par un estuaire. On va faire un petit exercice mental, Jean-Marie Gustave Le Clézio. Fermez les yeux. Dites-nous ce que vous voyez quand vous êtes, justement, à Sainte-Marine. Faites-nous ce voyage immobile. Il se cache les yeux.
Non, je n'ai pas trop de mal à retrouver cela, parce que ce n'est pas de la nostalgie, mais j'ai un très grand attachement pour ces étés bretons. Alors, je vois d'abord, d'abord le fleuve, parce que c'est là que j'ai passé l'essentiel de ces mois, j'allais dire de ces années, de la Bretagne. C'est un fleuve qui coule dans les deux sens. Lorsque la marée monte, l'eau est repoussée vers l'amont. Et lorsque la marée redescend, à ce moment-là, le flot du fleuve se répand dans la mer. Donc, il y a cette sorte de respiration des marées qu'on sent dans le fleuve. Et il y a cette eau, surtout, cette eau qui est sombre, qui n'est pas jolie. Ce n'est pas une jolie rivière. C'est un fleuve vraiment... Moi, je l'ai comparé à l'Amazone, bien que ce soit beaucoup plus petit.
Ah oui, largement.
Je l'ai comparé à l'Amazone parce que quand on était enfant, de dériver sur une pirogue, enfin sur une plate, sur ce fleuve, on avait l'impression qu'il était immense. C'était un contact avec cette Bretagne où se mêlent la mer et l'intérieur, ouais. Qui était, je crois, quelque chose d'assez unique.
On apprend que vous faites de vos copines des souffre-douleurs en les arrosant au bord de l'eau pour les faire crier. Vous pouvez rire, Jean-Marie. Et surtout en leur jetant du sable quand elles étaient assises sur la plage.
Oui, j'ai été très cruel, comme tous les enfants.
Et bon, vous dites en avoir pris un certain plaisir.
C'était un jeu assez érotique, je pense, en fin de compte.
Érotique ?
Oui.
Racontez-nous ça, Jean-Marie.
Nous étions 2 garçons, mon frère et moi, avec des filles du même âge.
Jusque-là, ok.
Et une manière de signifier que nous nous intéressions à elles, c'était de les agresser, c'était de montrer une agression physique. Et une manière pour elles de répondre à cette agression physique était de la subir. Donc il y avait un jeu, je pense, assez trouble. Mmh. Et je m'en veux beaucoup aujourd'hui parce que c'était de très gentilles filles et il n'y avait pas de raison de se mal conduire. Comme
en même temps, vous vous dédouanez parce que vous dites qu'elles devaient y prendre un certain plaisir parce qu'elles revenaient chaque jour.
Oui, je crois qu'elles étaient assez intriguées par ces deux... Nous étions là-bas en Bretagne des Parisianaires, des gens de Paris. Hey. Nous venions du sud de la France, mais nous étions des Parisiens. Et donc nous portions... Je crois quelque chose que, j'imagine, Gauguin a pu sentir à Pont-Aven. Le prestige du Parisien, le prestige de l'étranger qui vient, qui a de l'argent, qui a le pouvoir. Gauguin en a beaucoup abusé.
Un jour, avec votre frère, vous êtes surpris par la marée, Jean-Marie Gustave Le Clézio, entouré d'eau sur un banc de sable. Et c'est là que vous apprenez quelque part à nager vraiment, parce qu'il faut sauver votre peau.
Oui, il y avait un livre qu'on donnait à lire aux enfants à l'époque qui s'appelait « La roche aux mouettes » et qui était un livre extrêmement populaire, c'était une éducation qu'on donnait aux enfants. Et nous avons vécu un épisode de « La roche aux mouettes », c'est-à-dire que le brouillard nous a pris, nous ne savions plus où était la terre, où était la mer. Et dans « La roche aux mouettes », un des enfants dit « Écoutez, sonnez les cloches, dans cette direction-là se trouve la terre ». Là, nous n'avons pas entendu les cloches, mais nous avons réussi à sortir en nageant dans la mer.
Et c'était juste, vraiment ?
Oui.
Ouais, vous avez eu peur ?
Oui, absolument, oui.
Vous avez renagé après.
Nous avons risqué notre vie. Donc, il fallait nager ou se noyer.
Ouais. Et vous avez renagé après sans problème?
Après, j'ai nagé sans problème tout le reste de ma vie.
Mais vous n'avez pas peur de l'eau?
Non, jamais.
De la mer,
jamais,
non. Jamais. Et à marée basse, vous le dites, hein, l'humain n'est pas chez lui. On est dans le monde des poulpes et des poissons. Et vous vous faites un copain d'ailleurs, un peu particulier. Un poulpe qui fait connaissance avec votre corps, avec ses tentacules.
Oui. C'est une anecdote tout à fait vraie. Je mettais mes pieds dans une flaque d'eau, mais assez loin au large, lorsque la mer était complètement retirée. Et un poulpe qui ne connaissait pas les humains, comme un extraterrestre viendrait faire connaissance des humains, lançait ses tentacules qui passaient autour de mon pied, me caressaient. Et presque tous les jours, j'allais rendre visite au poulpe. Et j'avais pris une telle affection pour ce poulpe que je refusais de dire où il était. J'avais caché la flaque où il se trouvait.
Elle était toujours au même endroit.
Oui, il était toujours dans la même flaque.
Et vous l'avez jamais vu en
non,
sortie de l'eau?
Non, j'ai vu que ses tentacules. Et lui n'a vu de moi que mon pied.
Alors les langues régionales, Jean-Marie, vous en parlez, vous parlez du breton, vous parlez du créole, du corse, aussi de l'occitan. Vous dites que ces langues régionales, elles ont toujours été reléguées, voire pire, interdites. Car quand vous étiez petit, quand on parlait breton à l'école, et les créoles ont vécu la même chose aux Antilles notamment, c'était interdit, on était puni si on parlait le créole ou le breton. Ça vous a toujours choqué, traumatisé, ça?
Oui, je trouve que c'est une grande faute de la République d'avoir interdit la pratique des langues régionales.
Pourquoi ?
Parce que je pense que ces langues régionales apportaient quelque chose. Alors, bon, je serais plutôt du côté de ceux qui défendaient l'union des régions plutôt que la République jacobine. Mais bon, ça, ce sont des vieilles histoires. Mais je pense que l'absence de la langue bretonne, c'est quelque chose qui va manquer à l'avenir de la Bretagne. Alors aujourd'hui, on essaye de retrouver les usages des langues régionales, on essaye de favoriser l'enseignement de la langue, mais c'est très difficile de reprendre quelque chose qui a été coupé, qui a été mutilé. Mmh. Et la langue bretonne qu'on enseigne dans les écoles d'Iwan, dans les écoles où on apprend justement le bilinguisme, ce n'est pas la langue bretonne d'autrefois, c'est une langue nouvelle. Mmh. Alors moi, je ne suis pas un passéiste, je pense que c'est mieux d'apprendre la langue bretonne moderne que de ne rien apprendre du tout. Je pense que c'est bien de favoriser la résurrection des langues régionales.
Vous rendez hommage aux agriculteurs dans ce livre, Jean-Marie Gustave Leclésio. Ce sont les agriculteurs qui ont préservé la Bretagne et qui ont fait en sorte qu'elle reste plus ou moins intacte.
Oui, ce sont les agriculteurs qui ont maintenu les franges sauvages de la Bretagne, c'est-à-dire le bord de mer, ou bien les talus, les réserves de bois. Ce sont eux qui ont décidé à un certain point d'arrêter la tentation du regroupement des champs, d'avoir des trop grands champs. De la même façon, ils se sont opposés à la trop grande modernisation. Ils ont accepté les outils agricoles, mais ils ont gardé un certain rythme de vie, une certaine lenteur dans la vie qui appartient à ce monde-là. Par exemple, un agriculteur breton que je connais, qui est jeune, qui a votre âge, lorsqu'il a terminé ses tâches dans la ferme, il revêt une combinaison en néoprène. Il met un masque et il va faire de la pêche sous-marine. Donc il a une autre activité. Il a un moment où il est en contact avec la mer, en contact avec le monde sous-marin.
La nature.
Et ses parents sont assez étonnés, mais ils reconnaissent la valeur, surtout qu'il ramène des araignées de mer et des
plantes.
Donc là, c'est bon.
Bon, on peut encourager hein, d'ailleurs tous ceux qui sont en vacances, des vacances particulières cette année, vacances de proximité pour la majorité, d'aller acheter des produits locaux chez les agriculteurs de préférence. Vous vous souvenez de votre vélo, Jean-Marie Gustave Leclésio? Il est souvent question du vélo parce que vous dites les vélos en Bretagne à l'époque c'était incroyable, il y en avait partout, des piétons aussi, et le vélo on ne l'attachait pas comme un cheval ou une vache. Qui aurait eu l'idée de piquer un vélo?
Oui, et c'était des vélos qu'on louait. Parce qu'on n'aurait pas eu l'idée de trimballer un vélo depuis Nice jusqu'à la Bretagne. Et on l'a loué à un monsieur qui s'appelait Conan, dont j'ai retenu le nom. et qui avaient des bicyclettes extrêmement archaïques, sans changement de vitesse, où on était très haut sur roue. Ouais. Ce qui était très bien pour circuler à travers champs. Donc, je n'ai pas oublié mon vélo.
C'était pas un vélo tout-terrain ni un vélo électrique, quoi.
Non, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe.
Ouais. Oui, vous en parlez dans le livre. Oui, ça arrivé. Vous intéresse, ça, le vélo électrique?
Ma fille en a acheté un, dont je me sers de temps en temps.
Ah, voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup, Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Merci, Emmanuel.
Merci, c'est un grand plaisir à chaque fois de vous avoir. Vous êtes un grand fidèle de cette émission et c'est toujours très touchant.
Merci de votre invitation. Merci de me faire parler de la Bretagne parce que c'est pour moi tout de suite émouvant. Comme vous l'avez dit, les émotions reviennent à fleur de lèvres et j'ai du mal à me contrôler, j'en bégayais parfois.
Vous avez été parfait. Merci Jean-Marie, bel été à vous. Chanson bretonne et l'enfant de la guerre, deux contes, sont parus chez Gallimard. À bientôt Jean-Marie.
À bientôt Emmanuel.
Et on part au Canada avec le club francophone de Carole Laure.
Radio-Télévision Suisse, RTBF.
Radio-Canada, France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérad.
Et Carole, à carte blanche, votre histoire avec Perrine Leblanc est une rencontre. Avant tout, c'est une sorte de coup de foudre professionnel.
Oui, mais d'abord, j'adore la littérature, j'ai lu beaucoup, j'aime ça. J'ai toujours écrit mes scénarios toute seule, à partir d'une feuille blanche. Et là, j'avais envie de trouver un roman à adapter. Je tombe sur Malabour, donc je la rencontre et je lis Malabour et je trouve ça formidable. J'adore. Donc, finalement, à la longue, on n'a pas adapté ce roman parce qu'il y avait une partie très très forte avec une espèce de trailer.
C'est difficile à transposer à l'écran.
Puis la deuxième partie, c'était difficile. Donc, on a dit, on va faire un autre projet ensemble.
Et une série télé, alors.
Oui, mais depuis ce temps-là, on se voit beaucoup, mais au fil du temps, moi, je l'aime beaucoup comme personne, comme écrivain, bien sûr, puis je trouve ça exceptionnel qu'elle soit éditée chez Gallimard, puis qu'elle ait un tel succès. Elle comprend aussi mon cinéma. Je pense qu'on peut s'entendre très bien pour faire une série télévisée, ce qu'on concocte en ce moment.
Depuis 4 ans, vous êtes sur une série télé.
Ben, 4 ans. C'est long. C'est pas
l'écriture.
Comme le cinéma.
Ben oui, c'est ça.
C'est pas facile.
Perrine Leblanc, c'est un coup de foudre, Carole Laure, depuis longtemps pour vous. Soyez sincère, artistique. Quand vous la connaissiez pas,
J'ai rencontré son œuvre après l'avoir rencontrée comme personne. Je connaissais Carole Laure, l'actrice, le mythe.
Oui, de nom.
Carole Laure. Et ensuite, j'ai vu.
Elle adore qu'on dise ça.
Des films. Je dois quand même préciser que Carole est très jeune. C'est ce qui est exceptionnel. J'ai l'impression d'une amitié avec une femme de mon âge. Il y a chez elle une curiosité intellectuelle et culturelle extraordinaire et une jeunesse renouvelée.
Comme c'est vrai.
Vraiment fascinant.
Alors, dans cette petite ville, Malabour, il y a des meurtres. Ces filles disparaissent, trois disparaissent, assassinées. Et ces meurtres vont traumatiser tous les habitants, dont Mina, qui va rendre justice à sa manière.
En jouant un peu au détective malgré elle, je tiens à préciser que Malabour est un village fictif. Je me suis inspirée de quelques villages, dont le village natal de ma mère en Gaspésie, pour imaginer ce lieu. Qui est un lieu qui ressemble un peu au monde sombre des contes.
C'est un mix, c'est ça?
C'est un mix, oui, c'est un mix. Mais bon, là, je me suis installée, j'ai acheté une maison en Gaspésie l'année dernière. Je me rends compte que cette maison-là aurait pu se retrouver dans ma labour. Elle cadre parfaitement.
Et puis, il y a l'esprit de la campagne. C'est ça que vous évoquez aussi. C'est compliqué à la campagne quand on a des meurtres qui se produisent. Ça traumatise le village et tout le monde se sent concerné. Il y a quelque chose de très fort dans la relation humaine.
Il y a quelque chose de très fort dans la relation humaine et la Gaspésie est un vaste territoire. Est très peu peuplé. Alors, les gens se regroupent en petits villages, petites communautés, et ça crée une dynamique, forcément. Donc oui, s'il y a un meurtre et trois jeunes femmes qui disparaissent, évidemment, le drame va bouleverser la vie de tout le village.
Carole Laure, vous avez passé votre enfance à la campagne, vous aussi, à Shawinigan.
Une petite ville, oui, Shawinigan, au bord de Saint-Maurice.
Oui, en Mauricie.
En Mauricie. Puis je vivais sur la deuxième rue, la première étant carrément au bord de l'eau. Donc j'ai toujours vécu au bord de l'eau. Autour de Shawinigan, il y a plein de lacs. Donc c'était toujours ça. L'été, c'était au bord du lac. Puis le reste du temps, quand j'allais à l'école, c'était au bord de la rivière.
Ça change d'être au bord de l'eau? Ça change l'identité?
Ça fait qu'on a besoin toute sa vie après d'être proche de l'eau.
Eh oui.
Moi, je sais qu'aujourd'hui, je vis à Montréal, mais je...
Tu es tout frais s'il n'y avait pas cette...
Ah, j'ai tout frais, j'étais toujours juste à Montréal, donc je suis dans les Laurentides au bord d'un lac. Et c'est très, très important, je ne sais pas, j'ai besoin d'aller sur l'eau, j'ai besoin. Je ne suis pas une fille de mer, je ne connais pas la mer. Périne connaît la mer, mais moi, non.
Tu viendras me voir.
Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup, beaucoup être sur l'eau. Ouais. Je vais en canoë tout l'été, j'aime ça. Un canoë sur un lac où il n'y a pas de bateau à moteur, c'est, je vois des animaux tout partout.
Il faut que t'enjambes des barrages de castors.
Oui. sur la rivière, j'ai une chute au loin, donc on passe par-dessus le barrage de castors. Quand j'ai des amis français qui viennent à Morin Heights, au bord d'un lac, ils capotent, c'est le mot de le dire, ça capote en ville, dans ma maison.
Alors, il est question des odeurs, Perrine Leblanc, dans ce livre, avec des parfums, les odeurs qui nous guident dans la vie. C'est animal, ça, les odeurs. Même l'odeur des autres peut nous en rapprocher ou nous en écarter.
Et l'odeur des animaux aussi. Oui. Je ne supporte pas l'odeur du chien de ma mère, alors que mon chat peut puer et je vais le trouver formidable. Donc je peux vraiment.
Ta mère doit être contente.
Je vais lui demander de pas écouter l'émission. Mais oui, j'étais fascinée dès la jeune enfant, toute jeune, j'étais fascinée par les odeurs, l'odeur de la main. Vous savez, quand on transpire, je sentais mes mains. Je détectais les fuites de gaz avant tout le monde. Donc, j'ai très sensible aux odeurs. Et forcément, ça devient une obsession et ça me marque.
Carole Laure, les odeurs aussi?
Oui, c'est très curieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous raconter une petite anecdote là-dessus.
C'est votre émission aujourd'hui.
Que depuis mon enfance, depuis que je suis bébé, j'ai toujours aimé me respirer comme ça. Respirer ma propre odeur.
La main,
et même sucer,
la paume de la main.
Et même têter ma main. J'ai têté longtemps ma propre main, jusqu'à ce que j'avais une espèce de petite tétine ici, là, qui se développait. Et un jour, j'ai rencontré au cours de ma carrière beaucoup d'écrivains, et des psychologues, des psychiatres. Et j'ai rencontré un psychiatre qui me dit « T'as pas connu ta mère, t'as été séparé de ta mère à la naissance. » Et c'est typique des enfants qui sont séparés de à la naissance de la mère.
Vous avez été adoptée. Hein.
Oui, mais c'est à la naissance, donc oui, c'est sûr que si j'étais arrachée tout de suite à la mère, je fais ça encore aujourd'hui quand je suis angoissée, je retrouve, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette manie.
C'est du réconfort.
C'est du réconfort. Il m'a expliqué que... Et ma mère adoptive ne me ressemblait pas du tout. Elle était ronde avec des taches de rousseur, des yeux bleus, puis elle portait des robes à fleurs. D'ailleurs, je mets toujours des robes à fleurs dans mes films, aux femmes. Elle avait... D'ailleurs, je passe mal, là. Elle avait pas de manches, mais elle avait des gros bras potelés et avec des taches de rousseur. Et elle me laissait faire. Je m'assoyais à côté d'elle et je têtais son bras. Parce que j'aimais son odeur. Donc, l'odeur, pour moi, marche avec mère.
Oui, et c'est une question d'identité aussi.
Oui, oui.
Comment vous l'avez construite, votre identité, Carole Laure, dans le monde professionnel? Tout le monde dit que vous êtes complètement indépendante, que vous avez fait des choix très personnels, que vous ne vous êtes laissé influencer par personne. Et c'est vrai, que ce soit dans la musique, au cinéma ou ailleurs, à chaque fois, vous avez fait ce que vous avez voulu faire. La musique, on a dit, mais pourquoi elle continue pas, la musique? C'est vrai, pourquoi vous n'avez pas continué?
J'ai trop tourné... je trouvais pas que j'étais une grande chanteuse, mais j'aimais beaucoup la musique, mais ça vendait, ça a vendu beaucoup, donc j'ai tourné partout dans le monde, puis ça m'a fatiguée parce que j'aime ma famille, j'aimais mes enfants, puis je voulais pas être partie tout le temps. Mais là, il se pourrait bien que Lewis et moi, on fasse une dernière fois, après tant d'années, on retourne sur scène tous les deux avec des extraits de tous nos albums, parce que Lewis a fait un Selected Songs. Et ces Selected Songs ont marché. Peut-être que tout le monde nous pousse à faire ça.
Oui.
Peut-être que je vais finir par le faire.
Et tu changes, cavalière de rechange. T'entends pas passer l'ange, les yeux bandés. Mais n'oublie pas, pour le dernier tour, toi et moi on a signé. Et danse, danse avant de tomber.
Quelle magnifique chanson,
mais ça,
Carole.
Ça m'a fait faire le tour du monde.
Mais oui,
grâce
danse
au clip,
avant de tomber.
À cause du clip.
Oui.
Fait avec Louise Le Cavalier. C'était de la danse contemporaine. Moi, j'étais une fan totale de Louise Le Cavalier. J'étais presque tombée amoureuse d'elle. J'allais la voir partout, tout le temps. Louise, c'était un choc artistique pour moi. Et elle avait accepté de faire un clip qui était complètement contradictoire avec le thème de la chanson. Ça a fait le tour du monde.
Ouais, et on le voit, ce clip, sur Internet, si on veut le voir.
Oui,
il est magnifique.
Mais à cause de ça, c'est pour ça que j'ai tourné partout aussi.
Et vous chantez magnifiquement bien sur cette chanson.
Bon, je sais pas. En tout cas,
mais c'est sublime. Ça procure une émotion incroyable, Carole, je vous assure.
Et je la rechanterai en spectacle.
Bah voilà. Allez, faisons ça. C'est la sincérité qui vous a guidé tout le temps.
Oui,
la sincérité dans tout.
je marchais toujours par désir. Faut que je sois en état de désir. Et je n'aime jamais regarder en arrière. J'aime pas. J'étais attirée par les sujets des films que je tournais. J'étais pas attirée par mon rôle. J'étais pas une actrice qui se regardait. J'étais attirée par la technique. Faut dire que j'avais été à la bonne école avec Gilles Carle au départ. J'ai fait 8 ou 9 longs métrages avec Gilles Carle. J'étais très jeune. Et lui m'a tout enseigné. J'ai appris la technique. J'ai appris à avoir des yeux, des caméras dans les yeux. J'étais fascinée par tout sujet d'auteur, parce qu'on m'offrait aussi tout le cinéma commercial. D'être la vedette de ceci, de cela.
Vous avez refusé beaucoup de choses.
J'ai énormément refusé. Parce que
mais vous regrettez aujourd'hui ou pas?
J'aime mieux faire un premier film, essayer ceci.
Vous regrettez?
Pas du tout. Je regrette pas et j'aime réaliser maintenant. Je vais faire certainement encore un 5e film. J'aime faire ce que j'ai envie de faire. Mais je regarde pas en arrière. Il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, de ci, de ça, qui regardent leur œuvre. Moi, ça m'intéresse pas.
Mais vous auriez pu faire beaucoup plus de choses. C'est ça que je veux dire.
Mais je tournais beaucoup.
C'est que vous manquez au public, Carole, alors.
Là, c'est parce que je suis cachée derrière la caméra.
Eh oui.
Mais j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait 4 longs métrages.
Eh oui, quand même.
Qui étaient sélectionnés à Cannes les deux premiers, avec Locarno. J'ai fait la promotion des films dans les pays. On dit, on vous voit plus. Comme actrice, mais oui, mais je suis derrière. Je peux pas produire, écrire un scénario pour réaliser, puis être devant.
Bon, en tout cas, vous êtes d'une simplicité incroyable et d'une grande générosité. Perrine Leblanc a raison, vous êtes une jeunesse éternelle. Moi, chaque fois que je vous vois, vous rajeunissez, Carole. Je sais pas ce qui se passe. C'est incroyable.
J'ai une bonne hérédité.
Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Vous allez bien sûr rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ouais. Perrine Leblanc, Malabour, est publiée aux éditions Gallimard, on l'a dit, et en poche chez Folio. Pour l'été, c'est parfait. Un petit livre de poche, comme ça. Et voici le titre acoustique de la semaine avec la chanteuse égyptienne Natasha Atlas qui chante Maktoub dans les studios de la librairie francophone.
مش شايفين حاجة في الليلة دي ورينا حاجة مش عاوزين حاجة في الدنيا دي يا ناس مكتوب ولا
C'était la grande artiste Natacha Atlas avec Maktoub dans une version inédite depuis nos studios. Une nouvelle escale dans la librairie francophone estivale avec un voyage culturel à Istanbul. On vous emmène en balade dans la ville turque.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Kassim Zoto, hôtelier, nous nous trouvons sur la terrasse de l'Armada face à la mer, le Bosphore qui est juste devant nous avec la rive asiatique aussi d'Istanbul de l'autre côté et devant nous, juste derrière, puisque la terrasse est à 360 degrés, nous avons la Mosquée Bleue et le musée de Sainte-Sophie, ancienne église, la cohabitation finalement de deux religions. Bonsoir Kassim Zoto.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a demandé de nous raconter comment se passait un début de soirée. Est-ce qu'il y a un apéritif? Que déguste-t-on, par exemple?
Mais oui, parce que le raki et l'apéritif, c'est vraiment le point pour dire que la journée, la mauvaise partie de la journée se termine, le travail est terminé et on commence une partie de la journée de relax.
Alors voilà, on vient de nous servir de raki. Ce sont des boissons d'un blanc opaque qui ont un goût de pastis, par exemple. C'est assez semblable.
Oui, c'est du, normalement, c'est du raisin destillé, mais aromatisé avec de l'anis. C'est une boisson qu'on voit souvent dans des pays méditerranéens.
Alors la culture, c'est aussi la cuisine, Kassim Zoto, évidemment. Qu'est-ce qu'on mange à Istanbul? Des mezze, évidemment, que vous nous avez apporté. On a devant nous toutes sortes de petits plats avec des saveurs totalement différentes à chaque fois. C'est vraiment un festival, un bouquet de saveurs.
Oui, Istanbul, c'était une ville qui était le capital de l'époque, dans l'époque byzantine. C'était le capital dans l'époque ottoman. Et c'est pour ça que c'est une ville qu'il a ramassé un petit peu les meilleurs de toutes les régions de l'Asie mineure. C'est un mélange d'une cuisine arménienne, grecque, safarade et turque, mais le best de tous les mélanges.
Alors, expliquez-nous ce que nous avons là.
Mais écoutez, ça c'est un petit exemple. Le principal, c'est le fromage blanc, c'est une sorte de feta. On a des dolmas farcis, le cœur d'aubergine, on a les poivrons marinés.
Les poivrons rouges, donc, ils sont marinés. Je vais juste goûter.
Qui est mariné. Après, on a ça ressemble du djajik, mais c'est du mâche avec du yaourt.
La salade mâche avec du yaourt.
Voilà, c'est la salade mâche avec du yaourt, mais beaucoup de yaourt, beaucoup de mâche et un petit peu de l'ail dedans, c'est excellent. Et à côté de ça, on a la fève.
Voilà, alors effectivement ça a beaucoup de goût, la mâche avec le yaourt, on dirait un peu du tzatziki qu'on trouve en Grèce notamment.
Voilà. Mais aussi on fait le tzatziki en Turquie, ça c'est, on a beaucoup de choses communes, parce que beaucoup des Grecs qui sont actuellement, qui vivent en Grèce, ils sont d'origine anatolienne, c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses communes.
Il y a des saveurs partout, des odeurs partout, parce qu'il y a beaucoup de marchands d'épices dans Istanbul, notamment si on va dans la vieille ville ou évidemment au Grand Bazar, où nous serons d'ailleurs tout à l'heure. On a cette ambiance permanente avec ce son finalement aussi qui tourne. Il y a un son particulier à Istanbul, il y a le son de la rue, le son de la ville, des citoyens, et tout cela se mélange finalement avec une culture très méditerranéenne.
Absolument. On peut pas imaginer Istanbul sans son. Le son d'Istanbul, de temps en temps, il est un petit peu fort pour nous aussi, mais on a pris l'habitude.
Kassim Zoto, merci beaucoup.
Merci, merci de venir à Istanbul, merci de visiter Istanbul.
Nous sommes dans un quartier très populaire d'Istanbul, un lieu immense où l'on trouve toutes les saveurs, tous les artisanats et toutes les cultures de la Turquie. Bonjour Florence Elbron, Haute Guggen.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir ici. Nous sommes donc au Grand Bazar. Vous êtes conseiller consulaire, vous avez représenté les Français ici à Istanbul. Vous y vivez depuis 30 ans dans cette ville et vous avez un magasin de tapis turcs ici au Grand Bazar car on trouve absolument de tout.
Tout à fait. C'est 4000 boutiques dans un seul lieu, le bazar couvert, donc réparti sur à peu près 70 rues, fermé la nuit à 7h par 18 portes. Donc c'est le plus grand centre commercial du monde, on pourrait dire. Depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les Turcs redécouvrent le bazar et donc font un petit tour et continuent à faire leurs achats un petit peu particuliers.
C'est un lieu convivial avant toute chose. Même si effectivement on passe devant des boutiques où on a des diamants, enfin une vitrine où c'est incroyable parce qu'il y a des diamants partout dans cette vitrine. Juste à côté, on a une vitrine avec de l'or incroyable. Et puis juste en face, on peut avoir un magasin de t-shirts.
Tout à fait. Je veux dire, les Turcs sont très commerçants. Donc en fait, ils vont, dès qu'ils voient qu'il y a un produit qui marche, ils ne ferment pas la boutique.
Ils changent. Donc, voilà, alors là, on monte quelques marches et on se retrouve dans un espace plus ouvert.
Donc c'est un han, c'est à mon avis le plus joli han du Grand Bazar, qui a été gardé en l'état, donc en gardant l'arbre, la fontaine, les pavés inégaux.
Une identité très forte avec effectivement des pavés énormes.
Dans le bazar, vous avez à peu près, je pense, 20 000 personnes qui y travaillent. Mais en dehors du bazar, il y a tous les ateliers. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup plus de gens qui dépendent du bazar. C'est une vraie économie, souvent parallèle d'ailleurs, mais bon, de moins en moins. C'est vraiment le lieu où la famille anatolienne de base viendra pour faire ses achats précieux.
Merci beaucoup, Florence.
Je vous en prie, à votre service.
Voilà, on arrive autour de Galata avec un grand économiste et politologue turc. Bonsoir Cengiz Aktar.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous accueillir ici au pied de la tour de Galata. La tour de Galata qui est un symbole pour la ville, un monument aussi qui domine car tout en haut, on peut voir la totalité d'Istanbul. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs dans quelques instants.
C'est un des plus vieux quartiers de la ville quand même. Donc c'est un endroit privilégié, c'est le cœur de la ville. C'est au bord de l'eau, la tour domine le Bosphore et la mer de Marmara. Et c'est les Génois qui l'ont construite, n'est-ce pas ?
Voilà, on arrive à l'entrée de la tour de Galata avec ses escaliers en marbre. C'est absolument somptueux. Une porte ouvragée. Voilà, on arrive avec une toute petite corniche. C'est très étroit, c'est très haut. Il y a beaucoup de vent. Il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Voilà, un des lieux culturellement importants ici à Istanbul, puisque à partir de ce monument historique, on se retrouve, comme vous le disiez, Cengiz Aktar, face à la mer, plus que la mer même, puisque juste en face, évidemment, nous avons le continent asiatique.
On parlait de la ville cosmopolite, on parlait de la mégapole. Alors, Istanbul, aujourd'hui, c'est une ville surpeuplée.
Istanbul, c'est une ville intéressante, Cengiz Aktar, parce que sur le plan de l'architecture, sur le plan géographique, il faut savoir que cette ville est la seule du monde à se trouver à cheval sur deux continents. Ces deux parties sont reliées par un pont que l'on voit d'ailleurs qui est tout au fond.
La ville a gardé ses relations avec Rome, la première Rome, n'est-ce pas, au IVe siècle, lorsqu'elle a été bâtie. Mais très vite, elle a repris le dessus, n'est-ce pas, Et elle a brillé. C'est devenu l'empire romain d'Orient. Donc,
mais souvent de différentes influences, parce que vous le dites effectivement, l'empire romain qui s'octroie cette ville. Ensuite, effectivement, l'influence de l'Asie, l'influence de l'Orient, l'influence de l'Occident. Ce fameux débat avec l'Europe. Faut-il faire entrer la Turquie dans l'Europe ? Donc, vraiment, c'est une ville au confluent, au croisement de toutes les cultures du monde. Il manque, plus que.
Cynique qui disait à l'époque.
Les États-Unis. Pour s'en mêler.
Des cyniques qui disaient oui à Istanbul dans l'Union Européenne, mais pas le reste de la Turquie.
Voilà. On va aller de l'autre côté parce que là, franchement, moi je suis au bord, je suis à pic, c'est vertigineux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, ça glisse.
C'est du marbre usé. Et là, il y a une autre vue, voilà. Là, c'est intéressant. On donne sur la Corne d'Or, qui est un bras de mer en fait. Tout l'Empire ottoman, tout l'Empire byzantin, il est là.
Juste en face de nous.
Superposé, en fait.
Merci beaucoup, Cengiz. Merci infiniment. Et je vous souhaite un bel été ici à Istanbul.
À vous aussi, un bel été. Merci.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Anne-Laure Cochet à la réalisation. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons en Suisse dans les vignes du Lavaux, à Montréal avec Daniela Ferrière, à Marrakech avec Tahar Benjelloun et nous serons aussi en plateau avec Olivia Ruiz et Alain Mabankou. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous. Quitte la diffusion internationale pour se retrouver en direct sur France Inter uniquement demain dimanche à 14h. Une autre librairie francophone diffusée uniquement sur France Inter, celle-ci, avec d'autres rencontres et reportages. Nous irons en Guadeloupe à Marie-Galante sur les traces du poète Guy Tyrolien. En Belgique avec Annie Ernaux pour parler des supermarchés. Nous serons aussi en plateau avec Josiane Balasco et avec Claire Balavoine qui rendra hommage à son frère Daniel Balavoine. Ce sera donc demain dimanche à 14h avec une rediffusion ensuite lundi à 5h juste avant le 6-9. Triple dose pour la librairie francophone cet été.